6 et on voit deux versets, les deux versets les plus importants du chapitre, et je ne me gêne pas à le dire, c'est vraiment les plus importants en fait sur tout le concept de notre union avec Christ. Dans le Nouveau Testament, c'est dans les versets les plus importants de tout. Je vous dis là? Non, c'est parce que c'est là-dessus que c'est le pivot de toute la doctrine de notre union avec Christ. Ça nous montre l'œuvre que Dieu a faite puis les répercussions que ça a dans notre vie. Vous allez voir, c'est d'une simplicité puis d'une beauté. Versets 6 et 7, tout est là. On va le voir ensemble. Ça vous tente-tu?
Oui.
Go! Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Avant d'aller, comme je vous dis, là, au cœur de Romains 6, avec notre texte, j'aimerais juste vous rappeler que le titre de mon message, c'est « Le secret bien caché », on pourrait dire trop bien caché, de la sanctification, de notre sanctification. Ben, pourquoi il reste caché, ce secret-là, ou on pourrait dire le trésor caché, parce que c'est un trésor? Ben, parce que il n'est pas recherché en tant que tel comme secret de la vie chrétienne victorieuse. Souvent, on cherche mais à la mauvaise place. On cherche dans le mauvais arbre. On va parler encore de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est drôle, hier tu priais ça, tu me dis « Ah, je comprends pas, je pense que Dieu il te fait... » Alors matin, quand j'étais là, je pensais à toi, je dis « Mais je pense que Dieu a des réponses pour toi. » Si c'est tellement énigmatique, même je dirais presque pour certains, quasiment mystique, une espèce de connaissance là, lointaine, quand on parle de l'union avec Christ, là, ouh, c'est quelque chose de loin, tu sais, puis que, tu sais, c'est pas trop concret, là, c'est dans le la grande théorie chrétienne, là, loin de nous autres. Là. Ben, si c'est le cas, je pense que d'abord, c'est parce que ça n'a pas été enseigné. Pourtant, Paul dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il n'enseignait pas juste au sujet de Christ, il enseignait Christ lui-même. En lui est toute la plénitude, la divinité. Et donc, il enseignait Christ. Et c'est ça qu'on commence à faire un petit peu. Et donc, ça l'a donné des chrétiens qui se nourrissent au mauvais arbre, au lieu d'apprendre à se nourrir à l'arbre de vie, Christ, notre vie. Parce que ça, c'est quoi, l'arbre de vie? Ben, c'est, on l'a vu, hein, la base de toute cette sanctification, cette vérité sur Jésus, notre vie. Ben, la base, c'est sa mort et son ensevelissement. Hein, on était enseveli avec lui dans le baptême en sa mort. Et le fruit de ça, c'est la résurrection, c'est la vie. On marche maintenant en nouveauté de vie. Ça, je fais une petite révision par rapport à ce qu'on a déjà vu dans les versets précédents, 4 à 5. Et dans le fond, c'est ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit ce matin, c'est une question de vie ou de mort. Ou je dirais, c'est une question de passer de la mort à la vie. Et pour la nouvelle naissance, c'est bien clair, mais même, tu sais, on peut avoir de la mort dans notre vie chrétienne. On essaye bien fort, mais ça meurt, ça marche pas, ça porte pas du fruit. C'est des œuvres mortes. OK? Notre chrétienté générale, là, on pourrait dire occidentale, mais je pense que c'est pas mal répandu. Notre chrétienté a fait beaucoup de la vie chrétienne une question de bien, de mal, de mauvais ou de mieux, de problème versus solution, d'inconfort versus formule de réconfort, mais sans le consolateur. Autrement dit, des solutions, souvent à fondement biblique, mais sans vie. C'est tout beau, mais ça manque l'essentiel, la vie. Comme les amis de Job. Avouez que les amis de Job, là, ils étaient pleins de bonnes intentions, ils voulaient aider Job. Vous ne croyez pas? Je vais vous le dire. Trois amis de Job, Eliphaz, de Théman, Bildad, de Shuach et de Tsophar, de Naaman, après tous les malheurs qui lui étaient arrivés, ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ils voulaient le consoler. Ça n'a pas marché bien. Hein? Que vous êtes des consolateurs fâcheux. Mais qu'est-ce qui arrivait avec ces amis-là? Ils voulaient l'aider en s'appuyant sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la sagesse humaine. Dieu dit d'eux autres, vous n'avez pas bien parlé de moi. C'est pas qu'ils parlaient pas bien de façon absolue, mais ils donnaient pas le portrait juste de Dieu dans leur consolation, leur tentative de consolation de leur ami Job. Pourquoi? Parce que il était à différents endroits dans le même grand arbre de la connaissance du bien et du mal, un sur une branche là, l'autre sur l'autre, puis il se promenait un peu de branche en branche. Mais c'était pas l'arbre de vie. Il communiquait pas la vie. Puis c'est quoi qui était dans le cœur de Job? Je veux voir, je sais que mon Rédempteur est vivant, puis je veux le voir, puis il supérait après la vie. C'est vraiment spécial comment on voit ça dans la trame de fond du livre de Job. Maintenant, ceci dit, si on se connecte à l'arbre de vie, parce que là, je veux qu'on comprenne quelque chose. Je ne suis pas rendu le contre la connaissance. Ah, nous, on va être des ignorants, donc on va être spirituels. OK? En fait, ça a zéro rapport, parce que comment de choses qu'on apprend sur la vie? Tu sais, on passe des messages, on en parle, ça occupe beaucoup de discussions. Pis... Donc, c'est pas comme si ce que Dieu nous montre, c'est dépourvu de toute connaissance. Mais la connaissance n'est pas simplement... Puis, il y a des éléments de connaissance factuelle. On est mort avec... On va voir des faits, mais aussi, c'est plus que ça, c'est relationnel. C'est une connaissance qui nous amène à connaître notre Dieu. C'est pas juste des choses au sujet de Dieu, c'est Dieu lui-même qu'on apprend à connaître. Et cette connaissance-là, c'est la connaissance qui est proche, qui est vraie dans la souffrance, qui nous soutient dans l'épreuve, c'est la connaissance d'un Père aimant, d'un ami fidèle, tout-puissant, qui ne nous laisse pas tomber jamais, même dans nos pires moments, puis qui nous aime tout le temps. Peu importe on est où, on peut toujours l'invoquer. Voulez-vous que je vous donne un de mes versets préférés? Hey, pourquoi je ne l'ai pas dit un matin, lui? En plus, je le connais. « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » C'est beau, hein? Psaume 50, verset 15. Trois vérités que j'aimerais qu'on regarde, des vérités toutes simples, mais puissantes, sur le secret bien caché de notre sanctification. D'abord, début du verset 6, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. On lit le début du verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. A été, c'est au passé. Okay? Déjà, je vous fais remarquer que ça fait deux fois depuis le verset 3 que ça nous parle, bon, ça dit « ignorez-vous », mais ça nous parle de la connaissance, puis ici, ça dit « sachant ». Ça fait deux fois que le Saint-Esprit s'adresse à notre pensée, puis il va le faire encore dans le verset 9. On est dans la section, hein, je vous le rappelle, où est-ce que Dieu s'adresse à notre pensée. Il veut qu'on pense d'une certaine façon, ensuite ça va affecter nos émotions, notre conviction dans notre cœur, puis ensuite ça va se traduire dans notre volonté. Okay? C'est le pensée, émotion, puis ensuite volonté, c'est le parcours que le Saint-Esprit fait suivre là, l'enseignement ici sur notre union avec Christ. Donc ici, on est dans ce que Dieu veut qu'on sache. Ici, ça, évidemment, ce que Dieu veut qu'on sache, c'est ce qu'on appelle nos vérités sur notre identification à Christ. On est identifié à lui dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. On est mort avec lui, enseveli avec lui, puis né de nouveau, ressuscité avec lui. Et ça nous donne la manière par laquelle, OK, là c'est important, écoutez bien, la manière par laquelle Dieu a brisé la puissance du péché, la domination du péché dans notre vie, il a éliminé, puis là je répète peut-être des choses, mais ça vaut la peine d'être répété parce que l'apprentissage vient par la répétition. Dieu a éliminé la source du problème du péché dans notre vie. Nous-mêmes, notre nature adamique. Le vieil homme crucifié, là, c'est ce que Dieu a fait pour s'occuper de la source du péché dans notre vie. OK? Je vous explique. Notre nature pécheresse, ou on peut dire notre nature adamique, rebelle à Dieu. OK? C'est ça le vieil homme. Le vieil homme, ça réfère à notre nature adamique, ce que nous sommes en Adam. OK? Ce que nous étions en Adam. Et juste pour vous dire que j'invente pas ça, là, il y a deux autres endroits dans la parole de Dieu que ça parle du vieil homme. Dans Éphésiens 4, 22, ça dit... 21 et 22, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Vous avez été instruits à vous dépouiller, ça parle au passé de quelque chose que Paul les a instruits à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Puis ça en parle aussi dans Colossiens 3:9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Là, ici, il y a quelque chose de spécial. Ça parle du vieil homme dans ces deux endroits-là. C'est les deux autres références du Nouveau Testament à cette nature humaine corrompue, OK? Le vieil homme, notre nature adamique. Et qu'est-ce que ça nous dit? On est appelé à considérer ce vieil homme-là d'une manière bien spécifique. On doit le considérer comme notre vie passée. Ici, dans Romains 6, on apprend, sachant que votre vieil homme a été crucifié, mis à mort. Le vieil homme, capote, niette, il n'y en a plus, c'est fini. OK? Mais là, on arrive avec un problème. Pourquoi ça nous dit dans Colossiens, vous avez été instruit à vous dépouiller du vieil homme? Hein, si je suis déjà crucifié, pourquoi je vous m'en dépouille? Je vous explique. Ici, c'est un infinitif qui est utilisé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand ça dit « vous avez été instruit à vous dépouiller du vieil homme », là, on peut dire, c'est comme, ceux qui prennent des notes, mettez en parallèle, c'est comme quand ça dit dans Romains 6, 11, « considérez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu ». Vous avez été instruit là, à vous voir comme mort au péché. Donc, vous dépouillez de cette mentalité. C'est pas quelque chose que je fais, un fardeau qui est mis sur mes épaules. C'est une façon de penser que je développe. Mon vieil homme, là, il est crucifié. Et donc, j'agis en conséquence de ça. OK? Ça, c'est l'infinitif qui est dans Éphésiens 4, 22. Et toute la force de l'impératif dans Colossiens, ça dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. C'est quelque chose qui est arrivé. Donc, autrement dit, c'est un peu la même idée. Pourquoi tu mentirais alors que ça, c'est ce que tu étais avant? C'est pas ton identité. T'es plus un menteur. T'as été dépouillé de ça. Ton vieil homme, il est mort. C'est plus ton identité. Tu peux mentir, mais t'es pas un menteur. T'es un saint qui pêche et non pas un pécheur qui fait des péchés. C'est différent. OK? Je continue là-dessus parce que c'est quelque chose qui a de la misère à nous rentrer dans le ciboulot. Puis il faut pas que ça rentre juste dans le ciboulot. Il faut que ça rentre dans le cœur. OK? Mais je continue. C'est-à-dire que, ici, il faut comprendre que ce dont il est question, là, quand ça parle du vieil homme qui a été crucifié, c'est l'œuvre parfaitement accomplie de Dieu en Jésus-Christ avec nous autres. Il nous a dépouillés du vieil homme. C'est fait. OK? Puis moi, j'ai déjà prêché, puis j'ai déjà entendu des messages, puis ça, c'est légaliste d'exhorter les chrétiens à vous dépouiller. « Hey, faut que vous dépouillez, là! Enlève ce qui est méchant dans ta vie, puis mets du bon, là! Revêtis-toi du... » Ça, c'est mettre un fardeau sur les épaules, OK? Puis, en fait, c'est quelque chose que... OK, c'est comme... On a le fardeau de se débarrasser de notre nature non régénérée, inconvertie. Quand on comprend c'est quoi le vieil homme, c'est « Hey, là, débarrasse-toi du vieil homme! » Tu sais, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On demande aux chrétiens de faire quelque chose que Dieu a déjà fait. Dieu s'en est occupé. Puis là, je continue là-dessus. L'image de la crucifixion, là. Tu sais, ça dit « j'ai été crucifié avec Christ ». Savez-vous qu'on ne peut pas se crucifier nous-mêmes? Les crucifiés étaient crucifiés par quelqu'un d'autre. C'est, on n'est pas capable de se crucifier nous-mêmes. Il faut que quelqu'un le fasse. Et il faut que ça soit... Donc, la crucifixion doit être aux mains de quelqu'un d'autre. Et pour nous, c'est Dieu qui nous a crucifiés en son Fils Jésus-Christ. On est unis avec lui dans sa mort. À la croix, Dieu a réglé le problème de la source du péché, c'est-à-dire moi, ma nature pécheresse, ou si vous voulez, le péché en moi, en le mettant à mort. OK? Et ça, Dieu ne veut pas qu'on ignore ça. Dieu veut qu'on sache ça. C'est de la plus grande importance parce que si on n'a pas cette connaissance-là, si on ne sait pas ça, si on n'en est pas certain de ce que Dieu a fait avec nous, tout le reste va en découler. Parce que si je ne suis pas certain que Dieu s'est occupé de ma nature pécheresse, que je suis crucifié, ben je vais essayer de le faire moi-même. Je vais essayer de faire ce que Dieu a déjà fait. Fait qu'il faut que ça soit solide, ancré, c'est réglé. Dieu m'a crucifié avec son Fils. Il s'est occupé de ma nature adamique pécheresse. OK? Et je prends le temps de l'expliquer, celle-là, parce que c'est le bout qu'on a le plus de misère à comprendre, mais même l'autre après aussi. On a le verset 6, là, c'est comme le gros point d'enfargeur des chrétiens. On s'enfarge là-dedans, là, patapata, on fait 2-3 tours de culbute, puis on tombe en bas de la colline, puis. Parce qu'on le comprend de travers. OK? Mais d'abord, on comprend ça. Quand ça parle du vieil homme, c'est notre nature pécheresse. C'est réglé. Dieu s'est occupé lui-même. On ne pouvait pas le faire. Dieu l'a fait pour nous. Il l'a fait en Jésus-Christ. Comme on était mort en Adam, on n'a pas eu rien faire pour ça, mais on voit la preuve. On est né dans le monde pécheur. Ben, on ne pouvait pas rien faire pour se sauver. On est mort avec Christ. V'là 2000 ans quand il est mort sur la croix. Puis ça donne le fruit dans notre vie. OK? Et donc, juste un dernier point là-dessus. On y allait en termes de naissance. La malédiction en Adam est née à notre naissance. On est né en Adam. Malheureux que nous sommes. On est tous nés avec cette malédiction-là. C'est pour ça qu'un petit bébé, tu dis pas, là aujourd'hui on va apprendre à mentir, le lendemain. Là on va apprendre à voler le jouet des autres. Là, on n'a pas besoin de faire ça avec des enfants, c'est leur nature. Ben savez-vous quoi, pour un chrétien, Notre identité est rattachée à notre naissance. Je suis né en Adam dans physiquement, donc je suis pécheur. Quand je suis né de nouveau en Jésus, mon identité est rattachée à ma nouvelle naissance. Je suis plus un pécheur, je suis un saint. Je suis né dans la famille de Dieu. J'ai une nouvelle identité. Les choses anciennes sont passées. Le vieux Guillaume en Adam, il est mort. Le Guillaume, né de nouveau en Jésus-Christ, c'est lui maintenant. C'est ça mon identité. OK? Mon identité est rattachée à ma naissance. Dans les deux cas. Ancienne naissance, nouvelle naissance. Ça m'amène à considérer maintenant le corps du péché. Ça nous dit le vieil homme, crucifié, réglé. OK? J'ai assez dit là-dessus. Si vous avez des questions, vous le gardez pour la fin. On va avoir des questions à la fin. Mais ça dit « afin que ». Donc, il est arrivé ce que Dieu a fait avec le vieil homme. « Afin que », dans le but que le corps du péché soit caterguisé, réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, la deuxième vérité, le corps du péché a été réduit à l'impuissance. J'ai dit « caterguisé », c'est le mot « katargeo » en grec. Un mot qui est riche, qui est traduit de différentes façons dans le Nouveau Testament. Réduit à l'impuissance, c'est une excellente traduction. OK? Parce que ça nous parle du fait que c'est pas comme si j'ai disparu. OK? Le vieil homme, c'est fini, mais le corps du péché, c'est pas fini. Il a mangé un coup, mais il est encore là. Mais là, on va poser une question que peut-être vous demandez. C'est quoi ça, le corps du péché?
Ouais, c'est quoi?
Ben, c'est le corps du péché. C'est notre chair. C'est notre chair. C'est pas notre nature pécheresse, parce que ça a été réglé, mais notre chair, c'est ce qui est caractérisé par le péché dans notre vie. C'est cet antagoniste à tout ce qui est de Dieu dans notre vie. Avant de donner plus d'explications là-dessus, je vais juste vous expliquer ici, quand ça dit réduit à l'impuissance, je dis que c'est une excellente traduction, parce que l'idée, c'est pas c'est annihilé, il n'y en a plus, mais c'est que Dieu a brisé la puissance, parce qu'il a fait de nous en Jésus-Christ, il a brisé la puissance, le pouvoir de la chair, OK, du corps du péché sur nous. Là, juste pour clarifier quelque chose, le corps, quand ça parle du corps du péché, le corps en tant que tel n'est pas mauvais. Okay? On n'est pas, ça c'était dans le gnosticisme, là, les ascètes, ils disaient, là il ne faut pas manger, il ne faut pas faire ci parce que le corps c'est mauvais. Puis bon, il y avait toute une fausse doctrine là-dessus. Notre corps en tant que tel, c'est un véhicule. Okay? C'est pas lui qui est mauvais. Le problème avec le corps, c'est l'instrument qui obéit au péché dans nos membres. C'est ça le problème avec le corps, c'est le véhicule du péché. Tu sais, si je crie après quelqu'un, mais ma bouche devient l'instrument qui exprime le péché dans ma vie. T'sais? C'est ça le problème. C'est pas de la faute à ma bouche, mais c'est à travers ma bouche que ça s'est exprimé. Comprenez-vous? Fait que mon corps en tant que tel n'est pas mauvais. Mais c'est ça à quoi qu'il sert quand on livre notre corps, nos membres au péché. Okay? À ses ordres. Okay? Maintenant, dans le fond, le corps, c'est un instrument qui va obéir aux ordres de quelqu'un. Soit de Christ en nous, soit du péché en nous. Okay? Parce que on n'a plus le vieil homme, mais le péché est encore en nous. On a encore le péché en nous. indwelling sin. Ok, veut dire l'affaire que Eric nous avait dit là, le pasteur là, c'est pas vrai qu'on pêche plus là. Ok, un chrétien ça pêche. C'est un saint qui pêche. Ça fait pas de nous des pécheurs, mais ça arrive le péché. Ok. Ah là, faut que je mette quelqu'un sur le spot. Quelqu'un m'avait dit, ah, tu diras au monde qu'il met pas le téléphone, il y a un téléphone qui sonne là, là, je vous mets sur le spot, sentez-vous très mal, là, faut que le téléphone soit fermé.
Ça sent pas mal parce que j'avais un rendez-vous à l'hôpital avec Raphaël.
Ah, oh. Bon. Oui, Christina?
Juste une clarification. Le péché habite dans la chair. Parce que le péché, c'est tout ça, c'est juste de comprendre, le péché n'est plus dans notre partie spirituelle. C'est comme l'enfant de Dieu. Le péché, il est dans la chair.
Dans nos membres, oui, c'est ça, dans la chair. Ben, c'est que on est en trois parties. Notre esprit est connecté avec l'esprit de Dieu, mais notre âme, c'est nous, là. Puis notre âme, elle a ses pensées, sa volonté, ses émotions qui peuvent être self-serving, qui peuvent se servir elles-mêmes. C'est ça le problème. La connexion avec le péché se fait au niveau.
Notre corps,
ouais, mais hey, là, par exemple, posez vos questions à la fin parce que j'ai d'autres éléments de réponse. On va parler de volonté tantôt, là. Parce que sinon, là, je vais tout être dérapé. Ah, je vais répondre aux questions tantôt parce que ça marche pas en plein milieu, là. Je vais tout être déflaboxé. Puis peut-être que vous aurez des réponses à mesure que j'avance dans mon message. Parce que je me rends compte, là, c'est pas une bonne idée de faire ça. Prenez pas ça personnel, là. C'est juste ça la vie, là. Je suis limité comme personne, OK? Donc, le péché en nous est présent comme une puissance organisée qui agit à travers nos membres, OK? Puis c'est ce qu'on va regarder au verset 13, là. J'y ai référé, mais on va le lire. « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. » OK? Fait que le péché est là, puis il cherche à s'exprimer. OK? Donc, lorsque ça parle de corps du péché, c'est l'instrument, mais le concept de la chair amène un autre élément. OK? On parle du corps, qui est le véhicule, l'instrument. Mais quand on parle de chair, c'est plus que juste le corps. C'est pour ça que ça parle de corps du péché, il y a la notion de volonté. Regardez 7-18. 7-18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Remarquez bien ici, là. La notion de chair amène la notion de notre volonté qui peut se corrompre. Le siège, le trône du péché dans notre vie, c'est notre volonté. C'est pour ça que la foi, c'est important. La foi, ça veut, on décide qu'on se tourne vers Dieu ou vers soi. OK? Puis, c'est pour ça que ça, c'est vraiment le « je » dans notre vie. Puis ça, j'ai un bon... Voulez-vous un bon passage à « je » là, qui nous dit comment c'est pas gentil, le « je » là?
Oui.
OK? Ici, c'est une prophétie sur Satan, là, qui dit « je disais... tu disais, Dieu dit à Satan, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. » Je, dans ma vie, là, c'est pas gentil. OK? C'est les bons et les gentils dans la vie, là, mais je, c'est pas gentil dans la vie d'un chrétien parce que le je, il veut faire ce que je veux. OK? Puis d'ailleurs, j'aime ça en anglais, ça dit not I, but Christ. En français, ça se dit, ce n'est plus moi ou le je, le moi, c'est Christ qui vient en moi. T'sais, pas je, mais Christ. Tu sais, c'est opposé, c'est je ou Christ. Dans la vie d'un chrétien, le « je » veut laisser le péché et tout ça, mais Christ, lui, il est notre victoire sur le péché.
Amen.
C'est pour ça que le chrétien doit considérer qu'il est mort, écoutez bien, quant à l'autorité et la puissance du péché dans sa vie. Parce que Dieu s'est occupé de la source du péché. Non, le péché dans notre vie, là, c'est un intrus qui n'a plus rapport là. C'est un maître qui est destitué, mais qui veut encore essayer de bosser comme si c'était lui qui dirigeait. Mais c'est faux. Donc là, pour le mettre, Dieu s'est occupé du vieil homme, la source du péché. Mais là, le corps du péché, la chair, ben, ça, c'est encore là. Mais il n'y a plus de raison d'y donner sa place parce que Dieu s'en est occupé. Donc, c'est plus lui le maître. Avant d'être sauvé, le maître, le péché était roi et maître dans notre vie. Mais là, Dieu s'est occupé de la source même du péché. On n'a plus de compte à rendre au péché. Si je veux, je peux bien. Mais Dieu a tout accompli pour dire non. Je veux dire, la puissance est brisée. Sa puissance de domination. Donc, tu peux dire non au péché. Tu peux choisir ta volonté régénérée, peut agir selon ce que j'ai fait de toi, mon enfant. OK? C'est ça ici, toute l'idée. Bon. Là, je vais redire une affaire que j'ai déjà dit. Là. Avant, je vais vous dire quelque chose. Dans le fond, je l'ai déjà dit, mais c'est comme si Dieu a donné un coup fatal à notre chair pour la mettre hors de portée de nuit. Comme à la boxe, là, paf, chaos, tu sais. Il est pas mort, puis c'est pas qu'il n'existe plus, mais, je veux dire, le corps du péché a mangé toute qu'une claque pour y enlever sa puissance de domination puis de nous tirer par le bout du nez dans notre vie. Okay? C'est ça que Dieu a fait avec la chair, le corps du péché dans notre vie. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que j'ai déjà lu. Méditez, lisez, relisez, rien que le verset 6, là, pour vraiment le saisir, pour saisir la vie qui est là-dedans. Saisis la vie véritable, Paul a dit à Timothée. Je vous dis, c'est la clé, là. C'est le verset le plus important de tout ce qu'on considère dans notre série de Romains. OK? Puis voici maintenant la troisième vérité. OK, non seulement notre vieil homme a été crucifié, le corps du péché a été réduit à l'impuissance, cathargisé, paf, un bon coup qui met un knock-out. Mais la troisième vérité, préparez-vous bien, verset 7, nous sommes libres du péché. Verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. J'ose affirmer que ce verset est l'un des moins crus de la parole de Dieu. C'est vrai? Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas libre du péché. L'expérience ne matche pas ce qui est écrit là. Ah non, je ne suis pas libre. J'ai assez de misère à contrôler ma langue, à contrôler mon caractère. Quoi. Tu comprends? Ben voyons, il y a un mismatch là. Ça ne marche pas là. OK? Fait qu'on ne le croit pas. Ben non, OK, lui, il est peut-être, là, mais moi, de la misère. Fait qu'on ne croit pas ça. Voulez-vous qu'on en parle un peu?
Oui.
Ou j'arrête le message là?
Amen.
OK. Bon, OK, c'est bon. Good. Ben là, Houston, nous avons un problème, OK? Fait qu'on va parler un peu de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Hey, là, je vais vous donner une recette. Je vais tout vous dire quoi faire. Là, vous allez tout avoir la petite recette. Vous allez pouvoir dépendre de vous-même pour tout régler ça. Ouais, là, ce qu'il faut faire. Ouais. OK. Dans mon corps, dans mon quotidien, tu sais, dans la vraie vie, là, qui est tout le temps là, là, ben, je me sens pas tout le temps mort au péché. Je me sens pas tout le temps libre du péché. Mais c'est même pas ça la question. La question, c'est pas comment je me sens. La question, c'est qui je crois. Parce que Dieu dit quelque chose, mais mes émotions me disent autre chose. Qui que je vais croire? Indice, toujours mieux de croire Dieu. Okay? Si vous ne l'aviez pas deviné. Mais non, mais c'est ça le problème. Dieu dit quelque chose, nos émotions disent d'autres choses. Fait que la question, c'est qui je veux croire?
Dieu.
Ben là, on va pousser un peu là-dessus, là, parce qu'on est sur la bonne piste. Là. Lorsqu'on a été sauvé, on s'est basé sur quoi? Sur les faits de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ tel que révélé dans la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on a été sauvés, n'est-ce pas? Hein? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, incarné, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. That's it. C'est ça qui nous a sauvés. On a mis notre foi là-dedans. Est-ce que nos émotions étaient nécessairement toutes en ligne? Est-ce que, à cause qu'on se sentait comme si ou comme... Des fois, il y en a qui font cette erreur-là. Ah ben là, quand j'ai prié, je me sentais pas vraiment correct. Puis je pense que j'étais pas sincère. Puis c'est pas ça la question. Les émotions ont pas à jouer. Là. As-tu cru ce que Dieu révèle sur le besoin que tu as dans ta vie d'être sauvé? Les émotions, c'est secondaire. Il y en a qui pleurent quand je suis sauvé. Il y en a qui pleurent pas. Il y en a qui... Tu sais... C'est pas ça qui nous sauve. C'est l'objet de notre foi qui nous sauve. Nous, on est là pour faire un cas sur la personne qui croit. Non, c'est l'objet de la foi qui sauve. Bon, mais de même, les faits de notre sanctification doivent être crus et reçus par la foi sur l'autorité de la parole de Dieu et non pas des émotions. Les émotions n'ont pas d'importance. Sont secondaires, elles ne jouent pas dans la balance. On dit ça à, tiens, quelqu'un là, tantôt j'en parlais, moi en prison des fois je parle à des gars qui ont fait des first degree murder, là, meurtre au premier degré. Là. Hey, Dieu peut te sauver quelqu'un comme moi, puis il se sent tout de travers. Je peux lui dire avec l'autorité de la parole de Dieu puis une pleine conviction, oui, Dieu peut sauver quelqu'un comme toi. Il a sauvé un Moïse, il a sauvé un Paul, il peut te sauver toi aussi. Puis l'œuvre de la croix est infinie, quiconque croit. Hein? Puis c'est pas moi qui invente des salades, j'ai dit ça avec l'autorité de la parole de Dieu, même s'il ne se sent pas sauvable. Ben des fois, on ne se sent pas sanctifiable. C'est ça qui arrive. Mais c'est secondaire comment on se sent. Une illustration bien simple. Qu'est-ce qu'il y a des réveils matin? Puis qui s'en sert? Bon, vous êtes tous dans l'erreur parce que ça a l'air qu'un réveil matin, c'est pas bon pour notre horloge biologique. Apprenez à vous réveiller avant votre réveil. Bon, c'était avant votre réveil matin. C'est ça mon message, j'ai fini. Vous êtes tous coupables, vous êtes tous des pas bons. Vous l'avez pas pensé. Non, mais OK. Ça avait souvent déjà arrivé avec votre réveil matin. Vous l'avez mis à 6 heures. OK? Tu sais, la vie étant ce qu'elle est, une fois on se couche plus tard, moins tard, puis bon, c'est pas toujours égal la vie, là. Fait que le réveil sonne pif à 6 heures, puis là, non, je me sens pas. Je me sens comme si c'était 5 heures. Je suis encore bien trop fatigué. Ça file pas 6 heures, me semble. Mais savez-vous quoi? Le cadran vous déclare avec autorité qu'il est 6 heures. Puis tes émotions, il faut qu'ils s'arrangent avec. Non, mais c'est vrai, tu sais, tu te sens pas même, mais who cares, là, il est 6 heures, là, les émotions, ça n'a pas rapport, là, il est 6 heures pareil, là. OK? Vous comprenez le concept? C'est pas ça le plus important, là. Mais voici ce qui suit. La parole de Dieu déclare que nous sommes morts au péché, vivants pour Dieu, que Dieu a donné un coup fatal à notre chair pour plus qu'il domine sur notre, que le corps du péché, il n'y a plus la domination du péché dans notre vie, et qu'à cause de ça, on est libre du péché. C'est une réalité, ben, avec nos émotions qui s'arrangent avec ça. C'est ça l'affaire. Faut que nos émotions s'arrangent avec ça. Ma femme, puis moi, on a une expression qu'on aime, qu'on a lu dans la vie, qu'on a lu dans un livre. Tu te sens comme ça, rain on it. Hein, le gars qui a écrit, c'était quoi ça? C'est quoi, en anglais, comme, là, il y a peut-être juste trois personnes qui ont compris, là, mais rain on it, c'est comme, tu sais, get over it, reviens-en, tu sais, comme, tu te sens de même, puis, tu sais, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Puis là, non, mais je veux un peu, des fois, parce que des fois, tu sais, on peut être plus dur que nous-mêmes, alors que Dieu, c'est pas comme ça qu'il veut qu'on se voit puis qu'on se traite. Mais ben voyons, Seigneur, ça se peut pas. Je sens vraiment qu'il est 6 heures. Alors, repensez à ça la prochaine fois. Voyons, je sens vraiment pas qu'il est 6 heures. Ça se peut pas. Il doit pas être 6 heures. Voyons. Je me sens vraiment comme 4 heures du matin. Je suis fatigué 4 heures en ce moment. Là. Ben reviens-en. Il est 6 heures. Ah, mais là, je me sens vraiment comme un pourri. Tu sais, il me semble un enfant de Dieu qui fait des affaires de même, qui parle de même, qui pense de même. Ben, reviens-en. Hey, attends, j'ai que c'est fini. Ah, ben, vas-y, parce que tu vas l'oublier, là. Vas-y, là, parce que j'ai grandi.
On parle des émotions, mais c'est quelqu'un qui ressemble beaucoup, mais ça peut être quelqu'un comme moi qui pense beaucoup, puis qui essaie de tout comprendre.
Ouais.
Puis là, si je comprends tout, là, OK, je vais le croire.
Ouais.
Ça marche pas comme ça, parce que ça dit pas essayer de comprendre comment ça fonctionne, puis. Ça dit croyez, ça dit pas comprenez.
Des fois, on a besoin de croire sans tout comprendre, absolument.
Les émotions puis les
raisonnements. Oui, absolument. Amen. Fait que là, je termine avec cette idée bien simple. Puis je l'ai déjà dit avant. Je me gêne pas de répéter des affaires. On a besoin de revenir. Vous savez quoi? Le problème qu'on a, la majorité des chrétiens, c'est qu'on est mort, soit qu'on le sait pas, ou soit qu'on le croit pas. Mais on l'est! C'est, savez-vous quoi la bénédiction? Si on est mort, on est libre. Le péché, c'est plus notre autorité, c'est plus notre identité. Puis même, on va parler de la loi, chapitre 7. La loi, c'est plus, on a été dégagé de la loi. C'est plus notre mari, la loi, c'est un mauvais mari. Maintenant, c'est Monsieur Grâce, Jésus-Christ, c'est lui le nouveau mari de l'épouse, l'Église. On n'est plus sous la loi qui était tout le temps, « Ah, il fait ci, puis il fait pas ça, puis jamais content, puis jamais reconnaissant, puis... » Ah, mais c'est un mariage atroce. Mais tout ça, Dieu s'en est occupé en Jésus-Christ.
Amen.
Mais là, je me devance un peu. Mais je veux juste amener une simple chose avec tout ça. Les vérités qu'on vient de voir, aussi précieuses soient-elles, s'approprient, on en jouit par la foi. Il faut qu'on les mélange avec notre foi, il faut qu'on les reçoive par la foi, il faut qu'on croie que c'est la vérité. Et c'est ça, le juste vivra par la foi. Et moi, j'ai dit ce verset 200 millions de fois dans ma vie chrétienne, puis je viens de comprendre, il n'y a pas si longtemps, l'année passée, ou en tout cas, hein, le juste vivra. Tu sais, tu veux vivre, là. Mais si tu veux la vraie vie, c'est par la foi.
Et voilà.
Tu sais, je disais ça, moi, je pensais au salut. Je ne sais pas trop à quoi je pensais. Peut-être que je ne pensais pas non plus. Ça arrive, les gars, nous autres, des fois, on ne pense pas. Les filles, ça se peut pas, mais les gars, à quoi tu penses? À rien. Mais les filles croyaient ça par la foi, là, ça se peut qu'un gars pense à rien. Comme, il n'y a rien qui se passe. Pour un gars, c'est possible. Pour une fille, ça a l'air plus compliqué, mais...
C'est dur à expliquer.
C'est dur à expliquer. Effectivement. C'est ça.
C'est pour ça qu'on dit
que
je suis bon à rire. J'ai encore
placé
mon affaire.
Ah, c'était quoi, non, ta joke de mon... Dis-moi encore, c'est quoi?
Je la reste à rien. On dit que
je suis
un bon à rire.
OK, mais le juste vivra par la foi. C'est la grande vérité qui nous connecte à ce qu'on a vu là. La vie, là, c'est de croire ça. Vous voulez vivre? Vous voulez ce qui est en Dieu? Puis ça, on a juste à croire ça. C'est là, là, mort au péché, le coup fatal qui a été porté pour que notre chair, ça soit plus celle-là qui domine. Puis là, on a la vraie liberté. Et Dieu ne nous demande pas le meilleur de nos efforts là-dedans, il nous demande simplement de lui faire confiance. C'est tout ce qu'il nous demande. Le regard de la foi. Croire qu'on a été libéré. Et je l'amène juste un point bien simple là-dessus avec une illustration. Là, je vais faire mon pasteur tendance. Je vais prendre une illustration d'un film. Là. Le Seigneur des Anneaux. Vous avez écouté ça?
Oui.
Vous l'avez lu, Tolkien. Tu sais, on voit une illustration puissante dans le Seigneur des Anneaux qui nous montre une vérité. Ce sur quoi on se concentre, ça a une puissance sur nous autres. Vous savez ce qui arrive à Frodo, puis... au roi, tout le monde qui contemple, pour ça je pense que c'est un symbole du péché, je pense, l'anneau. Tout le monde qui contemple l'anneau est comme ensorcelé. Même qu'à la fin, Frodo, il faut le pitcher dans le feu, il dit ouais, pitch-le, espèce de sans génie, il a manqué pas le pitcher. Parce qu'il était comme ensorcelé par ça. Vous vous rappelez, là,
ouais.
Tu parles d'une affaire, tu vois, ben, ça monte. Tu sais, il y a comme une allégorie là-dedans. Même que quand t'es là, si proche de la victoire, tu peux encore être pris. Par la séduction du péché, si tu te concentres dessus, ben l'inverse est aussi vrai. Se concentrer sur Christ, notre vie, Christ en nous, l'espérance, la gloire, demeurer en lui, ses paroles en nous, quand ça c'est l'objet de notre concentration, ça nous captive. C'est ça la liberté, c'est ça les vérités qu'on croit. C'est ça que Dieu a fait de moi. Je me concentre sur ce que lui a fait de moi. Tu sais, on parlait la soirée dernière, ah, c'est beau ce que Dieu a fait avec les Adam, puis tout ça, c'est sa grâce, c'est son œuvre. Bien, ça, c'est ce qu'il a fait dans leur vie physique, mais on peut dire ça aussi dans notre vie spirituelle. Tu sais, c'est Dieu qui a fait ça, qui nous amène à voir ce qu'on voit, qui nous amène à vivre. Puis tout ça, c'est beau. On s'est réjoui hier, on a fait une fête pour célébrer la bonté de Dieu dans la vie d'Adam, mais on peut célébrer à tous les jours la bonté de Dieu de ce qu'il a fait dans notre vie. En nous sauvant, en nous plaçant en Jésus-Christ, c'est un sujet de célébration. Et ça, quand on se concentre là-dessus, on va être attiré, on va être absorbé par ça, puis ça va porter du bon fruit. L'inverse de l'anneau, ça va nous amener la vraie liberté. Amen?
Ouais.
Là, vous avez le droit de poser des questions. Ben, le droit, là. Vous aviez le droit aussi tantôt, là, mais là, c'est le temps approprié. Vas-y, mon beau Maxime Carotté.
C'est juste que... Je suis encore pour une autre manière. Je pensais être lié. Mais je voulais penser à quelque chose. Là. C'était juste un commentaire. Là. Mais tu sais, ce qu'on se concentre dessus, ça nous conditionne. Tu sais, j'ai lu dans. Je ne sais pas si c'est Ins and Out of Rejection. Il tenait à l'évolution du rejet. Puis c'était comme l'idée qu'on a de nous-mêmes conditionne l'opinion. Qu'on croit que les autres ont de nous-mêmes. Mm.
Puis tu sais, c'est puissant comme réalité.
Si tu penses que t'es un pourri, tu vas penser que tout le monde pense que t'es un pourri.
C'est ça. Puis c'est de la même manière aussi, tu sais, parce qu'en Christ, on a de la valeur. Là, c'est pas comme genre, t'es un bon à rien.
Non, c'est. On a de la valeur aux yeux de Dieu, puis ouais. Amen. Puis on va voir que les autres, ouais.
C'est ça, parce que si on pense plus souvent qu'on est rejeté,
ouais.
Puis c'est pas tant vrai, là. C'est moins vrai qu'on tente ça, plus souvent qu'autre chose, parce qu'on a.
Ouais. Ah, mais oui, Mathias?
Ça, on est sur ce que Maxime me dit. C'est pas ça qui nous définit dans la vie, c'est Christ qui nous définit
c'est
en nous.
Amen.
Amen. C'est précieux, hein?
Ben, c'est ça, c'est plus précieux que. Je sais pas.
Que tout. C'est plus précieux que tout.
C'est ce que je parlais d'ailleurs. C'est... Ça fait le lien, justement. C'est ça qui est le plus précieux, ce que Christ pense de nous. Puis, tu sais, comme quelqu'un qui est schizophrène, c'est comme. Ma femme. Tu sais, puis d'autres, là. Mais tu sais, les maladies mentales, c'est beaucoup de ça. Puis, OK, elle a été conditionnée, on lui a dit qu'elle n'est pas bonne, tout ça, puis elle l'a cru. Puis elle a l'air qu'il ne voit pas Christ qui veut la libérer, puis là, ça fait. Là, hein, tout le monde me rejette, puis tout ça, puis ça part dans des délires, là.
Il y a une grosse question d'identité, de croire. Oui, absolument.
Ça a une importance absolument capitale.
Puis c'est vrai, oui, absolument. Ah oui. Amen, amen, amen. Hey, gloire à Dieu. S'il n'y a pas d'autre chose, on va prier. Dieu, on est émerveillé de toi. Un Dieu si grand qui t'est fait connaître à nous, qui continue toujours de te révéler à nous. Seigneur, tu le vois, on a de la misère à simplement croire ça. Mais Seigneur, je pense qu'il y a beaucoup une question de simplement garder nos regards sur toi, sur ces vérités, puis prier que tu nous ouvres les yeux. Seigneur, c'est spirituel, ces choses sont spirituellement discernées. C'est pas en force de raisonner et d'essayer de tout comprendre, comme ma femme disait. Des fois, il y a les émotions, des fois, il y a nos pensées, nos raisonnements. Seigneur, c'est toi la solution. Donc, tu fais une bonne œuvre, tu l'as commencé, continue-la, on prie, de révéler toujours de plus en plus, Seigneur, ton Fils à nos cœurs et ce qu'on est en lui. Et merci pour un passage comme celui-là, tellement puissant, parce que c'est la clé de la victoire sur le péché, la clé de la vraie vie. Et merci Seigneur que tu nous l'as donné. On veut le chérir, on veut méditer dessus Seigneur, on veut ensemble Seigneur te chercher là-dessus, qu'on le vive, qu'on en jouisse dans toute simplicité. Parce que Seigneur, c'est ta volonté pour chacun de nous ici. On te remercie encore une fois, Seigneur, ta fidélité et ta divine parole qui soutient notre foi. On te prie au nom de Jésus. Amen. Amen.